Bonjour et bienvenue, c'est la bande originale de votre été jusqu'à midi avec Leila Kadoboudadi, Daniel Morin, Albert Algou, Alison Wheeler et Tom Villa. Au programme ce matin, Jérôme Commandeur, la bande originale de Radu Mihailanu, les lives d'Awa Lee et le meilleur de la bande originale, c'est parti. Tout va bien Jérôme?
Tout va bien, très content d'être là.
Bon, j'ai un bonjour d'Ali à vous passer, parce que vous avez beaucoup d'amis dans la maison en fait, et Ali tout à l'heure a dit, j'aime beaucoup Jérôme Commandeur.
Allez c'est gentil.
Voilà. Il y a plein de gens qui vous
quelle
aiment.
Quelle excuse, Nathalie.
Ça peut. Ça va, apparemment, vous connaissez bien. Alors, Jérôme et,
Ça crée des liens, hein. Et
notre invité, Maréchal Ganache. Vous savez pourquoi nous l'avons invité, Maréchal ?
Affirmatif. Parce que Jérôme Commandeur, je commence très très rapidement. Oui. Parce que Jérôme Commandeur, il y a la grande différence de l'approximatif Daniel Morin et de la satanique Alison Wheeler. Il est drôle. De plus, avec ma famille t'adore déjà, Monsieur Commandeur démontre qu'il est aussi un excellent réalisateur. Je dis aussi, car il est aussi un très bon comédien, doublé d'un imitateur hors pair. Et croyez-moi, en imitation, je m'y connais, puisque par exemple, je peux vous imiter à la perfection le père Albert. Écoutez.
Bonjour Maréchal Ganache, bonjour les amis, un coucou cordial à tous les jeunes en recherche de spiritualité sincère qui m'écoutent, dont ceux de la pastorale des jeunes de Brive, je les ai vus l'autre jour, un petit clin d'œil des auditeurs.
Je peux aussi imiter parfaitement, à perfection également, Albert Algou. Bonjour Maréchal Ganache, vous allez bien? C'est troublant, non?
Bravo.
Hein, c'est bouleversant.
Le talent du mec.
Jérôme Commandeur, désais-je, ne m'interrompez pas, pardon. Qui a également la chance d'être comme moi, d'origine pissiaquaise. Et être pissiaquais, et là, cher Nagui, je m'adresse à votre bande qui n'a d'original que son niveau d'inculture proche d'un enfant issu de l'accouplement d'une Karine Le Marchand et d'un Cyril Hanouna un soir de
beuverie.
Doucement.
Être pissiaquais, disais-je, ce n'est pas une perversion. Ça veut dire qu'on est originaire.
Une maladie génitale.
Voilà, encore moins.
Mais c'est au courant, vous êtes
une MST. Qu'on est originaire de la ville de Poissy, dans les Yvelines.
Parce que je pensais aux poissons, moi.
C'est l'emblème de Poissy, d'ailleurs. Voilà. Et cette origine, vous l'aurez compris, c'est sur les armes de Poissy.
On perd du temps,
à Poissy. Et cette origine, vous l'aurez compris, lui confère à mes yeux un prestige incomparable. Prestige presque aussi grand que celui que lui donne son nom très martial, parce que commandeur, question respect, c'est un patronyme qui en a dans le froc, comme maréchal. Mais revenons à ma famille, t'adore déjà, comme il dit très drôle, le casting de qualité, Arthur Dupont, Deborah François, Yann Chazelle, Thierry Hermine, Valérie Azma. Fonctionne sur un principe cher à Fedo, prenez des personnages qui au départ sont aux antipodes les uns des autres, accentuez leurs différences et faites-les se rencontrer. Et tout cela donne une comédie réussie, ce qui me fait douter du sens de l'humour de M. Nagui, qui tout en poussant mon fauteuil roulant tout à l'heure et mon paquet de couches dans les couloirs jusqu'à ce studio, m'a dit... Encore une histoire, je le cite, encore une histoire de futur gendre sympathique et humain, confronté à sa saloperie de belle famille. Ça me rappelle ma propre histoire.
Ça me rappelle surtout.
Et puis, c'est encore un film tourné à l'île de Ré, où les bobos vont acheter leur pain bio au tamarin, en roulant pieds nus dans leur méhari, avec là-bas qu'il y a des méhari, ou sur leur vélo hollandais. Il y en a marre! Si ça tenait qu'à moi, Nagui, je te les boycotterais ou je leur lirais Télérama jusqu'à ce qu'ils me supplient d'arrêter. Il y en a marre, maréchal. Mais rassurez-vous, comme d'habitude, je ne laisserai pas paraître. Et Jérôme Commandeur, qui, je vous le rappelle, avec la finesse d'un salarié d'Europe 1 qu'il est, n'y verra que du feu. Mais loin de toute cette violence verbale, cette histoire de Belbert a touché mon cœur.
Ah bon?
Certes, il ne me reste qu'une moitié de cul et mon colon est en plastique, mais cela ne m'empêche pas d'avoir un cœur. Et cette histoire m'a rappelé ma belle-mère. Je veux parler de la maman de feu, la maréchale Ganache. Quand je dis « feu, la maréchale Ganache », je parle d'Edmond, mon épouse décédée, et non sa mère, Émilienne. Quoique sa mère, en l'occurrence, ma belle-mère, je peux l'avouer aujourd'hui, fut-elle aussi, mais à sa façon, mon épouse. Je vous ne riez pas.
Quelle
horreur. Vous devriez plutôt être interloqué par cette révélation, car je vous dois des explications.
Des excuses.
C'était en 1954. Après des mois de captivité en Indo, dans une cage en bambou, plongée dans la boue grouillante de sangsue, ouvrez la cage. De retour en France, en métropole, je me suis réfugié dans le fond de la Châtre et je n'ai eu qu'une idée en tête, c'est ma ville. Faire un enfant à Edmond pour que la ville emportât sur la mort dont mes nuits étaient tentées. Au début, je n'avais que le train d'atterrissage à moitié sorti. Mais, à force de mignardise, Edmond réussit à me remettre au garde à vous. Hélas, en dépit de mes assauts répétés, c'est comme si elle refusait de se faire bomber la guérite. Et au bout de plusieurs mois, passé à dérouiller Totor, aucun polichinelle en vue dans le tiroir, rien, pas de habits. C'est alors qu'Edmond, taisez-vous, ma voix à l'incroyable vérité. Elle était un homme. Edmond, qui s'était fait opérer au Maroc juste après avoir fait ma connaissance pour ne pas me perdre. Comme je confiais mon désarroi au père d'Edmond, Émile, un solide barbu, coup de théâtre. Mon beau-père m'avoua qu'il était en fait ma belle-mère. Et c'est pour faire oublier qu'elle était une femme à barbe qu'Edmond s'était fait passer pour Edmond. Nul ni deux, je proposais de lui honorer le barbu en l'inséminant artificiellement. Et c'est ainsi que ma belle-mère devint à la fois la mère et la grand-mère de l'enfant du mari de sa fille qui par la même devint beau-frère de l'ancien père de sa femme. Vous avez suivi ?
Non, on s'en fout.
Et c'est voilà. Un cerveau malade.
Tout ça pour vous dire, taisez-vous Alisson. Pas vous ! Tout ça pour dire qu'une fois de plus, la réalité dépasse souvent la fiction, aussi bien réalisée, fut-elle, par Monsieur Commandeur.
Merci.
La bande originale, le meilleur moment sur France Inter.
C'est la première fois que vous réalisez.
Et la dernière.
Non.
Ah, c'était très drôle, en tout cas.
Parce que c'est un bon rendez-vous. En effet, c'est l'histoire de Julien, interprété par Arthur Dupont, qui vient demander Eva, interprétée par Déborah François, en mariage. Cette dernière lui présente alors sa famille pendant un week-end sur l'île de Ré. Et là, toutes les péripéties commencent à s'enchaîner. Et j'ai envie de dire avec un système où Dès que l'un veut sortir, se sortir d'une situation, ça ne fait qu'aggraver le cas.
Exactement.
Et ça devient de pire en pire. Une descente aux enfers.
Une descente aux enfers. Là, vous avez très bien restitué le pitch de Wikipédia.
Non, c'était dans le Parisien.
Oh, je vous charrie. Oh, si je peux pas vous charrier.
Il y a un mensonge quand même initial. C'est ce mensonge initial qui va déclencher toute la comédie de situation qui va suivre.
Oui, moi j'avais deux idées effectivement à l'origine du film. Un, c'était de faire un film sur la famille. Parce que je trouve que même s'il y a de la comédie romantique dans le film, même si j'aurais pu faire, je sais pas, les rapports de boulot, l'amitié, etc., je trouve que la famille c'est extraordinaire parce que le moindre mot change de sens et est reçu avec un coup de batte de baseball par celui qui l'intercepte en disant mais c'est horrible, pourquoi t'es aussi agressif, mais non mais je dis que j'aimais ta robe, mais non mais t'as pas le droit de me dire ça. Enfin tout prend une proportion démente.
Et en même temps on vit ensemble donc on est obligé de revenir et de se retrouver, ne serait-ce que pour les grandes occasions.
Oui, combien de fois on l'a tous vécu de réveillon avec quelqu'un qui fout sa serviette dans l'assiette et vous êtes tous des cons et il se barre, il va bouder mais il revient parce qu'il y a du fraisier. Il revient parce qu'il y a du fraisier parce que je l'ai acheté donc il est hors de question que vous le bouffiez sans moi. Il m'a coûté 39€, merde.
Je vois déjà que le numéro 2 est prêt en tout cas.
C'est ça. Et donc voilà, ça c'était la famille. Et la deuxième idée, moi que j'affectionnais particulièrement et bizarrement ça n'avait pas été trop fait au cinéma, c'était les Parisiens en province. Parce qu'il n'y a pas un coin de province où quand il y a une voiture immatriculée 75, on lève pas les yeux au ciel en disant tiens les cons sont de retour. Et parce que le Parisien il fait chier tout le monde parce qu'il sait tout mieux que tout le monde. Voilà, il explique au poissonnier de l'île de Ré comment on fait pour ouvrir les huîtres alors que lui il a vécu toute sa vie sur le périph, etc. Voilà, c'était un peu le
bien que l'île de Ré maintenant ça devient le 21e arrondissement, j'ai l'impression.
Oui, ils ont vraiment colonisé ça. Alors je pense que je vais me faire jeter des cailloux par les Parisiens de l'île de Ré, mais alors les Rétais ça a eu un effet de thérapie, de soulagement. Voilà,
le casting avec Thierry Lhermitte, Marianne Chazelle, Jérôme Commandeur, donc, parce que vous n'êtes pas donné le premier rôle dans cette histoire.
Non, mais moi j'adore les films choraux, j'adore ça, j'adore en voir, j'adore. Et c'était tout naturel, que si un jour j'avais la chance de démarrer au cinéma, c'était de faire un film de bande. Et
ça marche. Ouais. Je veux citer aussi Valérie Carcenti et Sabine Azéma, faut bien articuler quand on dit.
Il faudrait que j'aille vite. Hein.
Mais ce qui est fort, c'est qu'ils n'ont pas peur du ridicule. En tout cas, ils se laisse totalement aller sous votre direction, que ce soit Lhermitte, Chazelle, on a l'impression qu'ils ont déjà tout fait, tout vécu au cinéma comme folie, mais ils se sont amusés, ça se voit. Et pour en avoir croisé certains de cette bande que je viens de citer avant cette interview où j'ai parlé du film, film, ils étaient encore dans les, avec les yeux qui oui. brillaient, quoi, de bons
oui,
souvenirs.
Ça fait un peu cliché, parce qu'à chaque fois qu'on entend des artistes parler de leur film, dire, oh, qu'est-ce qu'on s'est amusé et tout, mais c'est vrai que, dans la mesure.
Non, où... l'Hermine m'a dit que c'était fait chier, mais par exemple, Marianne Chazelle a beaucoup aimé.
Bah, donc, vu le prix qu'on l'a payé.
Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu l'Hermite et Chazelle aussi bien dans une comédie.
Ah, bah tiens, on leur dira, ça va faire plaisir.
Bien joué. On peut leur dire, mais c'est vrai, ils sont quand même, ils représentent quand même quelque chose de fort dans l'univers de la comédie en France.
Ah, bah c'est plus que ça, c'est une institution,
je trouve. Forcément. Ouais, et là, l'Hermite, je le trouve absolument jouissif, et Chazelle aussi.
Et justement, c'était pas risqué de faire ce casting en se disant, on va me reprocher de faire une.
Bon, enfin, chacun des membres du Splendide a tourné avec d'autres de la même bande, donc non, c'est arrivé souvent. Alors après, évidemment, on n'est pas naïf, on savait bien qu'il y aurait un effet comme ça, mais si ça peut donner une lumière un peu particulière au film, un petit éclairage comme ça, de souvenirs, de trucs un peu Madeleine de Proust aux gens, et d'ailleurs c'est marrant, parce que dans la tournée province que j'ai faite pour présenter le film avec quelques comédiens, quand Thierry et Marianne n'étaient pas avec moi, les questions étaient toutes sur eux, c'est-à-dire que les gens n'en avaient strictement rien à faire de qu'est-ce qu'il y a dans le film, c'est comment ils sont, est-ce qu'ils sont sympathiques, est-ce qu'ils revoient Michel Blanc et Gérard Jugnot. C'est une question très importante pour moi, et voilà, non mais c'est, je charrie, mais c'est pour dire le poids, la force que, voilà.
Ah oui, c'est une empreinte dans notre culture cinématographique et dans les vannes, c'est-à-dire que c'est les répliques cultes des bronzés continuent encore de résonner aujourd'hui. Vous avez, alors oui, évidemment il y a le cliché Paris-Province, Île de Ré, Bobo et ainsi de suite, et puis il y a aussi un conflit de
classe,
de société, voilà, c'est ça, oui. entre Arthur Dupont qui finalement n'est pas aussi riche que ce que la famille de Déborah François peuvent penser, et elle
ou aurait aimé,
oui, et elle ment pour protéger en fait ce regard, ce jugement des autres, et elle ment même sur son propre statut d'ailleurs, sur sa propre réussite.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait les petits mensonges individuels prennent part et finissent dans le torrent de cette espèce de boue hypocrite qui les entoure tous, parce que tout le monde ment en fait, il y a pas un truc de vrai dans ce film jusqu'à évidemment la fin, mais oui, c'était, alors c'est marrant parce que ça paraît en fait assez classique comme postulat, et je le reconnais volontiers, mais il y a quelque chose d'universel sur l'image qu'on a. Et le fait que souvent, je sais pas, on est avec sa copine avant d'entrer dans une fête et oh, tu dis pas trop qu'en ce moment je suis entre deux boulots parce que c'est un peu, j'ai pas envie d'en parler. Hein, tu dis que je suis sur le boulot là que je vais prendre. Et c'est ces petits gestes là, tous ces petits trucs qui paraissent anodins et qui finalement.
Ah, puis à côté mytho aussi. Je me la raconte belle mon histoire, c'est ça aussi.
Oui, mais je trouve il y a quelque chose de très humain en même temps. Alors même si c'est très chiant à vivre parce que personne n'a dit la vérité, mais il y a quelque chose de très comme des enfants qui n'ont pas été sevrés.
Et puis il y a cette nounou allemande, c'est aussi un plaisir. Alicia, si,
non, Alicia Endemann, oui, je la cite.
Ah, bah, oui, non, j'avais le prénom, mais j'avais pas le nom. Elle est même pas dans le dossier de presse.
Vous avez pas le téléphone, par contre.
Non, j'ai pas le 06.
Ça m'étonne de vous, ouais, parce que vous êtes plus rapide d'habitude.
Pourtant, j'ai cherché celui-là.
Et il y a Tom Villa. Notre petit copain,
c'est pas.
Ah
vrai.
Oui, si, Tom
Villa qui fait un gendarme.
Ouais. Qui fait sa première apparition au cinéma.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il pourra tourner.
Et sa dernière, parce qu'on a vu les rushs. C'est...
Non, il est
pourra,
très bien, Tom.
Il pourra tourner 12 Seigneurs des Anneaux. Hein. Je serai le premier à l'avoir fait tourner.
C'est votre premier film et c'est la première production de Danny Boone.
Exactement.
C'est une première pour beaucoup de gens.
Hors ses films, exactement. C'est la première fois que vraiment, avec ses associés, ils se mettent à chercher un scénario et à ne pas mettre Danny dedans, puisque lui, évidemment, ce sont des grosses machines qui fonctionnent.
Et vous n'avez pas pensé à faire une espèce de blague, un caméo, une petite apparition, mais peut-être qu'il y en a une qu'on n'a pas vue, une photo
de lui,
une photo cachée. Oui. Est-ce qu'il y a une vanne quelque part autour de Danny?
Non, en fait, c'est pas Marianne Chazelle, c'est Danny.
Ce qui nous ramène à l'histoire du maréchal en Indochine. Non, j'ai voulu, et malheureusement, on n'a pas réussi à combiner les plannings.
Vous êtes bien marré, Leïla.
Mais oui, moi j'ai beaucoup ri parce que enfin il y a.
Ah non, je passe.
Non, pardon. Oui, j'étais en train de
parce
penser.
C'était à elle de parler, mais je cherchais.
Oui, non, je cherchais des allusions à Danny Boone dans le film. En fait, voilà, ce qui m'a beaucoup plu dans le film, au-delà de l'histoire et en effet de ces petits mensonges que on amène tous avec nous dans plutôt l'envie de pas se montrer dans une position de fragilité pour envoyer une belle image de soi et donc en retour montrer à la famille qu'on a réussi et que eux aussi indirectement. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est toutes les plaisanteries, les blagues qu'il y a en parallèle de l'histoire. Par exemple, scène au supermarché, quand il va chercher la bague, il y a un petit appel au micro.
Jackie et Michel.
Voilà, Jackie et Michel sont attendus à l'accueil. C'est des trucs comme ça, mais c'est bête. Mais moi, ça m'a fait rire du début à la fin.
Il faut expliquer.
Jackie et Michel, c'est... Bien sûr, j'ai aucun problème à expliquer. Tout le monde sait ce que c'est.
Vous faites...
Mais ça va pas, respecte-la.
Mais ça va, c'était avec moi.
Donc c'est une plateforme de site pornographique. Voilà, Jackie et Michel, tout le monde en parle.
Soi-disant amateur,
ça je sais pas.
Ah, Naki, l'œil de l'expert.
Soi-disant amateur, c'est comme ça qu'il le...
Voilà. Oui, c'est l'homme de télé qui parle.
En tout cas, c'est mal produit. La lumière, une catastrophe.
Le dire faute.
Il est où le dire faute?
On n'a pas osé la faire, monsieur.
Merci de me laisser les pourris. C'est gentil, Jérôme.
En tout cas, le film est émaillé comme ça. Il est émaillé de plein de plaisanteries de ce genre-là. Donc, j'étais à l'affût pendant tout le film. Moi, j'en ai repéré une. Je cherchais à chaque fois dans toutes les allusions.
Moi, je pense que si on le revoit 2, 3, 4 fois, on va en découvrir d'autres. Vous amusez à ça, à mettre des vannes que l'on...
Ouais. Oui, j'adore ça.
On voit pas tout de suite.
Alors, ça me fait.
Est-ce qu'il y a des vannes en arrière-plan? Est-ce qu'il y a des espèces de coccinelles de
Gottlieb? Oui, ça peut arriver. Alors après, il faut quand même qu'il y ait quand même 2-3 vannes que tout le monde comprenne. Si elles sont toutes cachées. Ça va virer entièrement.
Non, il y en a beaucoup qui
je
sont
ne veux
apparentes.
Pas que mon humour paraisse.
Parce que c'est bien. C'est ce que je dis tous les matins.
Droit comme un. Oui, il y en a beaucoup et c'est un plaisir. C'est un plaisir inouï parce que on est là. En fait, c'est marrant parce que faire ce genre de film, c'est un plaisir de cancre. C'est-à-dire qu'on est là, on glousse comme un con. C'est parfois quand on regarde à froid, c'est complètement débile et on a honte. Et en même temps,
il faut y aller.
Quoi. Ouais.
Il faut assumer l'humour de potage. Ça fait du bien en tout cas. Ouais. Et ça fonctionne et on se marre. Et c'est extrêmement bien joué et réalisé d'ailleurs. Je tiens à vous le dire parce que
je vais citer le co-réalisateur qui s'appelle Alan Corneau.
Oui, vous avez raison parce que c'est lui qui a tout fait. Mais...
Mais en tout cas, je vais le dire, mais vous l'avez dit avant moi.
Vous êtes gonflé, moi je suis passé sur le tournage. Je suis venu deux jours et demi.
On m'a dit à la table de régie, ouais, c'est ça.
Et c'est sorti du savane.
Et c'est sorti. Et c'est sorti hier. C'est ça, non?
C'est sorti hier.
C'est sorti hier, voilà.
Oui.
Ma famille t'adore déjà. Pardon, je vais pas faire l'inverse. Quand vous annoncez la venue de Jérôme Commandeur, vos oreilles ont sifflé, Ayla.
Et oui, et immédiatement, j'ai pensé, cher Jérôme, à vos talents d'imitateur et un animateur, pardon, télé que vous singez vocalement à la perfection.
Et top, ancien député du Loir-et-Cher, ancien député du Pas-de-Calais, ancien ministre de l'Éducation nationale et de la communication, actuel président de l'Institut du monde arabe, mais surtout éternel ministre de la culture, je suis.
Jack Lang?
Ah oui! Ah oui, c'est Jack Lang, Gisèle, bravo!
Oui,
c'est incroyable. Moi, quand je vous écoute, à chaque fois, je suis bluffée. Je suis vraiment bluffée. Là, c'est Julien Lepers.
Je suis venue me faire caresser la pomme.
Ouais.
Doucement, Jérôme.
Ça ne va pas durer.
Et on poursuit justement, parce que quand je pense à vous, je pense à un homme politique, qu'on vient d'entendre son nom, c'est Jack Lang, qui s'exprime sur une figure historique qui n'est pas anodine, surtout dans l'exercice du pouvoir, celle de François Ier.
Ah oui. Un roi bâtisseur, non seulement de monuments, mais aussi d'une administration, des finances royales, de la centralisation de l'État et de la monarchie absolue, sans compter toutes les réformes qu'il a introduites pour imposer la langue française comme langue de l'État, pour fonder la librairie royale ici même à Blois, qui fut l'ancêtre de la Bibliothèque nationale, pour instituer le dépôt légal, bref, il a été aussi un grand roi législateur.
Et c'est pas du tout anodin d'entendre Jack Lang.
C'est tout France Inter, hein. c'est du rire et du fond.
Voilà. C'est ça.
Du rire et du fond.
Et là, Jack Lang...
Alors, Robin, c'est rire et fion, c'est ça.
Oh bah non, bah ça...
Jack Lang nous parle de François Ier, et on pourrait se dire que c'est totalement anodin, mais pas du tout, parce que dans toutes les qualités que Jack Lang reconnaît à François Ier, indirectement, et quand il parle de Blois, c'est une façon d'espérer que ça va rejaillir sur lui. Et justement, Jérôme Commandeur, Jack Lang était au cœur de votre mémoire de maîtrise, dont l'intitulé était « La spécificité française de la biographie historique par le politique ».
Allez, vous pouvez vous me charrier, vous avez 2 minutes. Voilà,
il s'agit d'expliquer pourquoi Jack Lang a tellement tenu à écrire en fait sur François Ier, Bérou, sur Henri IV et j'en passe. Ça, en c'était fait, votre sujet d'étude.
Alors voilà, merci, c'était mon sujet d'étude. Tout le monde se fout de ma gueule avec ça.
Mais non, pas du tout, moi je trouve ça fascinant.
Arrêtez, j'ai bien vu votre petit air, Nagui.
Mais Nagui,
Quand on vous sortira, vous et vos amis du gouvernement,
c'est vrai que vous vous soutenez Marine Le Pen, c'est ça, je trouve ça formidable.
Non, c'est parce que en fait, je suis allé jusqu'en maîtrise et je ne l'ai pas validé puisque j'ai eu la chance de commencer à travailler tôt. Donc,
voilà. Oui, mais ça, vous vous défilez, c'est pas tant le fait que vous n'ayez pas fini votre maîtrise, c'est que vous soyez intéressé à un tel sujet. On pourrait, l'absolu, ne pas penser que Jérôme Commandeur, Tom Villa m'a confié récemment que vous étiez féru d'essais politiques, de ce genre de choses.
Oui, non, mais c'est gentil de me prendre pour un con.
Non, c'est comme vous voulez
en parler. En fait, non, mais pour résumer, vous aimez l'écrit et l'écriture, que ce soit l'écrit,
c'est lire.
L'écrit d'un scénario ou l'écriture d'un discours. C'est l'écrit qui vous
plaît. Oui. Non, mais c'est vrai. Non,
l'exercice.
J'adore ça. J'adore la politique. Pas dans le sens militant, parce que finalement, moi, je suis un peu flottant là-dessus. Mais en revanche.
C'est bien ce qu'on vous reproche.
Comme le parquet.
Comme le parquet, exactement. Non, mais par contre, j'adore l'échiquier politique, comment quelqu'un fait un pas en avant, se met de côté, n'y arrive pas, essaye une élection, etc. Et j'ai plein de bouquins là-dessus, des biographies d'hommes politiques à la maison.
Le rire d'Alison, elle vient de comprendre le parquet flottant. Elle a compris une vanne 15 secondes après la vanne.
J'ai dormi une heure, Nagui.
La compréhension à retardement.
Et votre sujet de mémoire, moi, je le trouve très intéressant parce que c'est une façon de voir comment la propagande, d'une certaine façon, peut se nicher dans l'exercice politique ou comment on va convoquer des grandes figures. Je m'en fous, moi, ça m'intéresse à fond.
Moi aussi, ça m'intéresse.
Et d'ailleurs.
Il y a quelqu'un
Ouais, Jérôme et moi, d'ailleurs.
Nicolas Sarkozy et François Hollande le font très régulièrement quand ils célèbrent un événement et qu'il y a un pupitre, un discours, ils se placent dans l'événement, dans la figure historique, là en l'occurrence l'anniversaire de la naissance de Mitterrand avec Hollande il y a 2 semaines, etc.
Ils convoquent des grandes figures, j'avais trouvé ça passionnant.
Et du coup d'avoir fait des études, vous ne vous sentez pas un peu seul sur Europe ?
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Let You Down, Awali, c'est en live dans la bande originale.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Totalement prêt, c'est Tom Villa maintenant pour son humeur.
C'est pas une humeur.
Oula.
C'est une humeur de merde. Voilà. Je suis de mauvais poil. Enfin, de ce qui m'en reste.
Non, c'est Thibaudos.
Ça fait 40 ans que j'en ai marre. Et quand je vois leur tronche à tous, c'est pas prêt de s'arrêter. Le vieux, il en a marre. Voilà, c'est dit. Je reviens dans cette émission pour relever le niveau. Parce que il y a un chroniqueur qui est parti. Pierre-Emmanuel Barré. Il a bien choisi son patronyme, celui-là. Comme Jean-Michel Ribe. Moi aussi, je peux dire pute, nazi et viol d'enfant dans la même phrase. Merde! Voilà. Parce que la dernière fois que je suis venu, vous m'aviez proposé de venir faire un billet. Cher Nagui. Cher n'étant pas une marque de respect. Mais comment on vous désigne à Antenne 2? Vous saviez, vous, que 80% de notre devant servait à entretenir sa villa à l'île Maurice? Salaud! Je reviens dans cette émission de bobo, gaucho, dépravé. Pour la dernière fois avant le résultat dimanche. Parce que dimanche, je suis comme Linda de Souza, j'ai préparé ma valise en carton. On reprend le bateau, direction Alger. Ce qui me fait de la peine, c'est pas de partir, c'est que je vais me retrouver avec Enrico Macias et Jean-Pierre Elkabbach. Ça sera pas la croisière s'amuse, c'est moi qui vous le dis. Si jamais le capitaine a envie de nous faire une Costa Concordia, qu'il se gêne pas, on lui remboursera les frais, du moment qu'il me laisse une chaloupe de côté. Merde ! À 20h, je serai devant ma télé, avec un thé à la menthe et les dernières merguez avant la prohibition. Ma gabardine sur le dos, au cas où. Il paraît que les Belges ont les résultats plutôt chez eux. Pour une fois qu'ils ont quelque chose avant nous, même pour les attentats, ils étaient les derniers. Mais croyez le vieux singe, et je parle pas de Morin, ça sent le roussi, mes enfants. Dimanche dernier, au marché, j'ai entendu une vieille dame me dire « Le deuxième tour, on a le choix entre la peste et le choléra ». Je sais pas quel est lequel, mais je vais demander, vous qui avez connu le Moyen-Âge, c'était quoi le pire? M'énerve! Comparer le petit con à une connasse, faut vraiment être débile! Merde! J'ai le droit de dire connasse. Oui, il y a jurisprudence depuis l'affaire Morano. Même si c'est pas bien de dire que Nadine Morano, c'est une connasse, ça s'appelle révéler un secret professionnel. Marine Le Pen m'avait attaqué, il y a quelques années, parce que j'avais dit qu'elle faisait la campagne d'Hitler. Mais il m'a semblé que le juge ne m'était pas hostile. Et elle a été déboutée. Salope. Le Pen m'avait attaqué en justice, Morano m'avait attaqué en justice, il n'y a que les blondes qui m'attaquent. Et en plus, elles perdent, elles sont vraiment connes. Mon fils, Nicolas, ce petit con, a critiqué les discours de Macron. Ils sont bien, les discours de Macron, ils sont pas compliqués au moins. On sait que c'est lui qui les écrit. En même temps, vu son cursus scolaire et professionnel, on se doutait qu'il savait mieux compter qu'écrire. Et puis, il s'attendait à quoi en voyant les discours de Macron, Nicolas? Il allait pas nous faire les blagues comme au César. Avec Brigitte, ils auraient pu nous faire un remake de La La Land, mais ça a déjà fait cette année avec Jérôme Commandeur et Marthe Villalonga. Non, à la limite, il aurait pu nous faire une parodie d'Harold Desmaud. En plus, Macron, il l'a dit hier, à propos du débat de ce soir, il est prêt à quitter le plateau au bout de 30 minutes s'il s'aperçoit qu'il sert de punching ball à Marine Le Pen. Il s'attend à quoi, Macron? Qu'elle lui fasse un câlin? Avec un bisou? Mais quel petit con! Vas-y Manu, prends tes gants, l'œil du tigre, le dentier de Brigitte et roule ma poule. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'en 2002, on s'était tous mobilisés contre le borgne de Saint-Cloud. Mais là, en 2017, a priori, tout le monde a mieux à faire. En même temps, c'est un week-end de 3 jours, le fameux pont du 8 mai. Vous avez raison, allez profiter du soleil parce qu'après les jours seront gris. Nos ancêtres se sont battus il y a 72 ans pour qu'on soit libre. Ils se battaient avec des fusils, des bombes. Vous, vous n'avez qu'un bout de papier à mettre et vous préférez partir en week-end. Bande de cons. Alors bon courage. Moi, j'ai vécu le plus gros. Je m'en fous. Même si j'ai changé de hanche l'année dernière. Les 5 prochaines années, c'est pas moi qui risque de poêter le plus. Bonne journée. Merde.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
C'est la bande originale de Radou Mihailanou. En 1980, vous arrivez en France et l'une des musiques qui vous vient à l'esprit à ce moment-là, c'est ça.
Oui.
Bienvenue en France.
Génial. C'est super.
C'est-à-dès que vous arrivez en France, vous allez en boîte de nuit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les années 80 correspondent à Greg Hennon?
Bah, d'un côté, oui, je suis libre. C'est-à-dire, on a du mal à imaginer qu'est-ce que c'est fuir une dictature.
De Ceaușescu en Roumanie.
Voilà, et arriver à bon port, parce que même la route a été un peu complexe. Et donc, dès que j'arrive, je me dis, je vais survivre. Enfin, je vais vivre. Donc, oui, je vais vivre dans le rythme, dans la joie. Et même s'il y avait quand même de la joie en Roumanie, mais voilà. Et je vais survivre parce qu'une autre étape commence, qui n'est pas toute simple non plus.
Parce que j'allais dire, la culture française quand vous, que vous connaissiez avant d'arriver en France, qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux dans les premières années quand vous êtes arrivé en France?
Bah, les premières années, c'était...
Est-ce que ça correspondait à l'image d'abord que vous en faisiez?
Oui et non, c'est-à-dire c'était un monde rêvé. C'est-à-dire, je rappelle que j'ai grandi avec la France, mon père était ami de Malraux, traducteur, et on n'avait que des photos, des revues de la France. C'est-à-dire la France était le plus beau pays au monde et on rêvait d'y arriver. Donc d'un côté j'arrive et c'est ce beau pays que je retrouve, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, la richesse. J'arrive en 4 décembre, période de Noël, tous les Champs-Élysées étaient allumés. À la fois j'étais très enthousiaste et à la fois ça m'a paru indécent. Parce que je savais la pauvreté que je laissais derrière en Roumanie et ailleurs. Ça me paraissait, il y avait les deux...
Ça me paraissait
too much, trop.
D'accord.
Trop. C'est-à-dire, je me suis dit, waouh, quelle dépense, quelle exubérance,
ouais.
Alors qu'ailleurs, ça se passe très mal.
Ouais, mais une fois qu'on est en boîte, qu'on danse, qu'on boit un whisky, qu'on prend la cocaïne, ça va mieux, là, on oublie.
Mais en même temps, j'étais heureux, et en même temps, la France, ça, c'est pas un mystère, au début, elle est un peu dure. C'est-à-dire, les Français sont pas toujours...
Accueillants.
Si, moi j'ai eu la chance quand même d'une famille et des amis qui m'ont à la fois accueilli, mais d'autres qui étaient très très durs. C'est-à-dire par rapport à mon accent, par rapport à... J'étais décalé. On se racontait tout à l'heure la réplique du concert. Je l'ai dit trop souvent et à chaque fois, je comprenais pas pourquoi on rigolait. Je disais, je vous baise chaleureusement. C'est-à-dire, moi, j'avais lu Stendhal. Donc, pour moi, baiser, c'était quelque chose de charmant. De
c'est
poli.
Votre truc, l'amour, hein?
Mais toujours chaleureusement.
Si la chaleur.
Ouais.
Ça passe.
Ça passe.
Surtout en hiver.
Ça passe.
Et quelle était la plus mauvaise nouvelle pour vous la plus grosse déception que vous ayez eue au début, en tout cas?
Bah oui, c'était une dureté, hein, Roger. C'était, je me rappelle le premier jour à l'école, donc j'ai fait l'idée que l'école de cinéma. Bon, déjà, moi, j'étais un peu décalé. J'étais un peu barge, donc je les comprends aujourd'hui. Je suis arrivé, ma mère m'avait acheté le plus beau costume de Roumanie, mais c'était le costume de Thierry Lhermitte, du Père Noël est une ordure. C'était, j'avais un costume à carreaux. Dans les années 80 en France, j'étais ringard à mort, mais ma mère m'avait dit, tu mets ce beau costume 3 pièces cravate quand tu vas à la grande école en France. Donc j'ai mis ce costume le premier jour, déjà j'arrive à moi en retard, tout le monde m'attendait comme le Messie et un mec bizarre arrive alors qu'ils étaient tous en basket et en jean, moi j'arrive en costard, tout de suite je sens le décalage. Après, deuxième décalage, c'était...
C'est drôle ça, parce que c'est un vrai truc d'intégration.
Ouais. Et le pauvre qui vient et qui ne veut pas paraître pauvre parmi les riches.
Et les codes, c'est la notion de code aussi, de compréhension des codes et de connaissance des codes.
Bah oui, et donc après...
Je pense qu'on a tous vécu ça.
Et donc après, j'arrive à l'idée qui était une école post-68 tarde, où le pauvre prof de scénario, il n'arrive pas à en placer une pendant toute la matinée où chaque élève voulait un autre cours de scénario. Donc moi, j'en peux plus. J'avais fait 4000 kilomètres d'une manière compliquée et tout ça. Et je me retrouve dans une école rêvée où je n'apprends rien. Donc l'après-midi, je me lève furieux. Et à l'époque, je tricotais avec 10 mots en français. Et donc je dis que voilà, que moi, j'aimerais apprendre quelque chose et qu'il le laisse tranquille. Et là, je me suis reçu plein de trucs dans la gueule, genre « rentre chez toi », etc., etc. Ce qui m'a fait beaucoup de bien. Et le jour où j'ai eu mon César pour meilleur scénario, je les ai remerciés.
Oui, dans les années 80, vous êtes assistant réalisateur sur « Dangereusement vôtre » de John Glenn, aussi avec Marco Ferreri sur plusieurs films, Jean-Pierre Mocky, Nicole Garcia sur « Un week-end sur deux ». Est-ce qu'il y a une personne, un réalisateur qui vous a plus influencé que les autres? C'est pas un classement que je vous demande, mais est-ce que vous avez été à l'école, entre guillemets, de l'un d'entre eux?
Bah, tous, mais effectivement, mon maître, ça a été Ferreri. Ferreri était un génie, il était un ovni, c'est-à-dire c'était un martien. Il voyait 10 ans en avance ce qu'allait arriver à nos sociétés. J'ai commencé avec lui, I Love You, I Love You, il est tourné en 85, où les ordinateurs existaient à peine, et lui, il fait un film sur un mec qui siffle une poupée ou une poupée qui lui répond I love you. Mm. Donc il parle de l'amour virtuel en 85
avec Christophe Lambert.
Avec Christophe Lambert, ou pas une seconde on imagine qu'un jour on en serait là. Il fait La Grande Bouffe en 64 qui parle de la société de consommation qui allait exploser de trop consommer. Bah c'est ce qu'on vit depuis un long moment, c'était vraiment un visionnaire et un génie.
En 2011.
Sois de Massy.
Bonne réponse.
J'adore le créole.
C'est la source des femmes.
Eh ouais.
Présenté à Cannes, qui aussi vous permet d'ailleurs de recevoir la Légion d'honneur, c'est-à-dire que vous partez en fait d'un fait divers qui s'est déroulé en Turquie.
Exact.
Et comme on l'a expliqué tout à l'heure avec Leïla, vous plaidez la cause des femmes, mais comme si vous vouliez défendre la planète, c'est pour vous la cause des femmes, c'est pas uniquement défendre les femmes, c'est défendre l'humanité.
Bah, par cette cause-là, c'est-à-dire la grève de l'amour, c'est quoi ? C'est pas que la grève du câlin, c'est la grève de la procréation. Donc c'est la grève de notre civilisation, c'est-à-dire s'il n'y a pas égalité, est-ce que notre civilisation va mourir ? La métaphore, elle est là. Et en plus, il y a l'eau. L'eau, il y a rien de plus essentiel. Voilà, tous les éléments étaient sur la table. Donc à travers cette cause-là, je défends encore une fois, je vous ai dit, la démocratie, ouais. C'est ça, la vraie démocratie, c'est pas que égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, ce sont des mots. La vraie l'égalité, elle est à l'intérieur du foyer, c'est là qu'on le voit.
On est, je crois, il y a une dizaine de jours où il y a beaucoup de personnes qui se réunissent autour du thème de la fraternité, justement, et de ce combat-là. Quelle est votre définition, votre vue ou de l'importance de la fraternité ?
Bah pour moi, elle est essentielle. Et aujourd'hui, effectivement, encore une fois, on revient à l'amour, mais qui a un lien avec la fraternité. Qu'est-ce que c'est la fraternité ? C'est l'amour de l'autre, et à travers l'autre, on se construit soi. Si j'ai deux secondes, je raconte une anecdote, entre guillemets, de la Torah et de la Bible. C'est quand Dieu demande à Abraham de monter en Israël, en fait, il lui dit pas « va du sud vers le nord » et de traverser la rive. En fait, la métaphore de tout ça, c'est que pour grandir soi, il faut traverser le mouvement qui est la rive et non pas un lac. Et pour grandir soi, faut unir sa rive à soi avec la rive d'en face, c'est-à-dire avec l'autre. Ce n'est que comme ça qu'on peut exister, grandir et évoluer.
Ce n'est qu'une métaphore et pas une demande d'envahissement ou de...
Pas du tout. Pas
de conquête.
S'élever, quoi. S'élever.
S'élever en soi, c'est unir le soi chaque jour avec l'autre. Donc aujourd'hui, la fraternité, pour moi, ça ne devrait être que ça. C'est-à-dire chaque jour. Et ce qui est beau dans mon travail, c'est qu'à chaque fois, je dois, pour faire un film à peu près potable, je dois essayer de me glisser dans la subjectivité de l'autre. Ne pas rester figé sur ma subjectivité. Donc à chaque fois, ma passion, c'est presque la documentation que je fais avant, La Source des Femmes. Je me suis dit, comment je vais comprendre la subjectivité de la culture arabe et elle-même étant... formé de plein de cultures et aussi de la subjectivité de la femme qui est à l'opposé de ce que je suis. Mais c'était ça le plus beau des voyages, c'est-à-dire de me glisser et d'essayer de comprendre comment l'autre regarde le monde.
Vous devez être un mari formidable, un amant formidable.
Bah, faut le demander
à mes femmes.
mais qui brise
tout d'un coup.
Pas bien, non.
j'essaie d'être la plus belle mission, si je peux dire, c'est aussi celle de père. Ça, c'est formidable.
Essayer aussi de
regarder à travers le regard de mes enfants.
J'entends souvent un texto de votre femme qui fait « Ouais ».
Bah, elle n'a pas tort.
On reçoit Monsieur Malarevitch. Alors, je dois dire docteur Malarevitch.
C'est pas grave, oui. Docteur, allez-y.
Docteur.
Oui.
Alors, on dit pour le docteur.
J'ai fait des études quand même.
Vous êtes médecin.
Oui.
Et psychiatre. Les deux peuvent aller ensemble. Et psychothérapeute. Vous avez écrit
deux... Moi aussi, on ne dit pas docteur pour moi. Hein.
Toi, tu es docteur, toi ?
Non, je parle tout seul.
Moi, j'ai un master 2. Je ne sais pas si...
Non, ça ne marche pas. Lui, il est médecin.
Non, mais si on a fait des études...
On peut m'appeler maître, master, non ?
On s'appelle maître toutes les deux.
Bon, sortez, revenez.
venez quand c'est la grâce des femmes.
On arrête lundi. On arrête de travailler bientôt, donc tu seras tranquille.
Moi j'ai mon BAFA, on peut m'appeler maître.
Puisque vous avez publié Repenser le couple aux éditions Livre de Poche, on voulait avoir votre opinion de psychothérapeute sur l'amour et sur l'histoire de l'amour justement dont on parle avec Radou aujourd'hui et de l'amour de jeunesse, parce que c'est ça aussi le point de départ. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une espèce de tendance, je ne sais pas si c'est un phénomène de société ou si Internet pousse à ça, de retrouver son premier amour ou un amour de jeunesse.
Je crois qu'il y a deux idéaux dans l'amour, c'est le coup de foudre. Et c'est de retrouver l'amour de jeunesse. L'amour, c'est un drôle de territoire. C'est-à-dire, il y a à la fois de l'idéal, de l'éternel, et puis il y a la réalité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est pas évident, c'est des trahisons, etc. Ouais, enfin,
l'amour idéal n'est pas forcément à partir d'un coup de foudre. Il peut se construire aussi.
Non, mais je pense que chacun rêve d'un coup de foudre, ou de vivre le coup de foudre, ou de retrouver un coup de foudre.
D'accord.
Donc effectivement, l'amour de jeunesse, il n'y a que la première fois qui compte. D'abord, il y a l'importance d'apprendre. A priori. Et puis c'est vrai qu'Internet et surtout Facebook, ça permet de retrouver des choses. Et quelquefois, il y a du veuvage aussi. J'ai pas mal d'histoires de veuvage qui permet de retourner un peu en arrière. Et puis il y a aussi la mythologie.
C'est-à-dire d'une dame qui a perdu son mari.
Voilà, exactement.
Et qui donc, plutôt que de rester seule, retrouve d'anciennes amours ou son premier amour.
Voilà.
D'accord.
Et puis il y a aussi la mythologie des origines. Hein. Et donc c'est l'origine de l'amour quand même. Hein. Donc on est tous dans la nostalgie d'une quête d'identité, y compris dans ce qu'on appelle l'amour. Quoi.
Et c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ou c'est plus les femmes qui cherchent leur premier amour que les hommes?
Bon, c'est un sujet un peu polémique. J'ai plutôt tendance à croire que les hommes et les femmes, c'est pas la même chose.
C'est bien, vous partez sur des bonnes bases.
Je suis pas sûr que j'irais beaucoup plus loin.
Ouais.
Mais
on a l'impression que les hommes cherchent plutôt du neuf.
Je crois pas. Je crois pas que ça soit comme ça. Je pense pas
oui,
que
du
ça
neuf,
fonctionne
oui.
comme ça.
Oh.
Vous avez moyens.
J'ai choqué une dame.
Vous avez les moyens. Vous, moi, je cherche de l'occasion. Hein.
En tout cas, on entend plus souvent parler d'histoires de messieurs qui vont vers de nouvelles aventures ou qui justement quittent le foyer. On leur démon de midi qui les gratte.
Je suis psychiatre et psychothérapeute, donc je vois les choses qui marchent pas. Mais d'accord, donc je suis déformé par ça. Mais j'ai tendance à croire que, de ce point de vue-là, c'est-à-dire dans tout ce qui est la constitution de nouvelles histoires, les hommes et les femmes, c'est la même chose. Et je vois par exemple de plus en plus de femmes qui ont une aventure et leur mari ou leur compagnon est complètement perdu. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande différence entre les deux.
Très bien.
Je sais pas si ça vous rassure.
On est plus discrète peut-être.
Moi, plus on est dans.
On est plus secrète, plus discrète peut-être.
Alors ça, c'est vous qui le dites, oui, peut-être.
Bon.
Ce qui ne va pas rassurer ton mec, hein, fais gaffe.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
C'est la reprise de Oasis par Awali, Wonderwall. La version est donc rien que pour vous dans la bande originale.
There are many things that I would like to say to you.
originale, le meilleur moment sur France Inter.
Tout n'est pas beau dans la vie, la preuve, voici Daniel Morin.
Quelle horreur.
Tu préviens les gens, c'est tout.
En France, il existe un endroit où tout est merveilleux, un endroit à part, perdu dans le 16e arrondissement de Paris. Une maison ronde pleine de vie, de joie, mais aussi de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi une journée est super, sache que c'est une journée ordinaire à France Inter. Une saga quotidienne avec le colossal Patrick Cohen, Augustin Trapenard, le psychopathe, Prince Nagui, Laetitia Gaillet, la journaliste folle, mais aussi Laurence, directrice de France Inter, mais aussi cobaye chez Jean-Louis David. Mathieu, le grand patron, le plus beau du monde, et bien sûr tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire à France Inter. C'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter. Enfin, en apparence. Aujourd'hui, en l'honneur de nos invités, toute la grille de France Inter et Allô Maman Bobo, comment tu m'as fait, je suis pas beau style. Toute la grille est consacrée aux gens moches. Laurence, la directrice, fait un point devant les équipes.
Bon les amis, vous le savez, d'habitude je kiffe ce qui est beau, ce qui est attirant, ce qui est sexy. Un simple coup d'œil à ma coupe de cheveux vous donne la bonne indication de mon côté hyper hot. Et ben aujourd'hui c'est le contraire, je veux du moche, je veux du pouilleux, je veux du laid, du mal dans sa peau.
Augustin Trapenard, en bon soldat, frappe très très fort en premier. Il invite Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, dont le physique et les idées ne sont pas des plus sexy. L'interview se passe hyper bien. Michel est odieux, hideux, ses propos sont révoltants. Augustin est aux anges. Homme de challenge, Nagui décide de cogner fort, lui aussi. Aujourd'hui, dans la bande originale spéciale Moche et pas beau, faites du bruit pour les frères Bogdanov. Alors, ça va les gars? Bah vous avez de la chance, nous on a la gerbe. Avant de retrouver Igor et Grishka, juste après, un morceau de musique moche. C'était Justin Bieber avec une chanson moche. Igor et Grishka, on va revenir sur les dates qui ont compté pour vous. Des dates où vous avez pris des râteaux. L'émission est un succès colossal. De son côté, Laura Adler est au taquet, elle aussi. Pour sa spéciale, dans L'Heure Bleue, Laure reçoit un joueur de guitare péruvien amputé des deux mains qui joue avec sa langue brûlée au troisième degré. En 2015, il a été élu musicien martyr de gauche le plus moche par un jury Inter, Télérama, Haute Vidéo. Toute l'antenne étant à l'unisson, la journaliste folle Laetitia Gaillet se met au diapason des moches.
Nouveauté en matière de justice, on appelle ça le regroupement de mise en examen. Premier Français à en bénéficier, Patrick Balkany, le maire de Levallois, est maintenant accusé de tout. Dans le prochain Flash Info, une spéciale Donald Trump et un portrait dans la catégorie « Ces chers disparus qui nous manquent », aujourd'hui, Émile Louis.
Exceptionnellement, le téléphone sonne ne sera pas présenté par Nicolas Demorand, c'est le maréchal Ganache qui répondra aux auditeurs.
Auditeurs de France Inter, bonjour. Ici le maréchal Ganache dans le microphone. Aujourd'hui, bonne nouvelle. Ce n'est pas l'infect de Morand, mais moi-même qui assurera la permanence du téléphone sonne. Le thème, la mutilation. Je sais que vous êtes nombreux à souffrir dans vos chairs d'une mutilation ou d'une ablation handicapante ou humiliante. Qui, mieux placé que moi, qui, je vous le rappelle, fut amputé du croupion chez les Viettes, contre les... pour parler avec vous et vous comprendre. N'ayez pas honte de vos cicatrices, même les plus intimes. Appelez nombreux.
Mon Dieu, quelle radio. Une fois encore, la mobilisation des forces vives est totale. Bref, aujourd'hui encore, à Radio France, tout le monde a joué le jeu. Résultat ? Une antenne de haut vol et une thématique respectée. C'est dingue, c'est fou, et pourtant tout ça... C'est juste une journée ordinaire à France Inter.
Merci Daniel Morin.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Des excuses à présenter, Daniel.
Chokran, comme on dit chez nous.
Désolé pour tous nos auditeurs progressistes qui ont été choqués par toutes les allusions racistes anti-roumaines mentionnées par le maréchal Ganache. Désolé par avance. Demain, avec Jules et Lucky Luke, Terre Promise, on s'attaque aux Juifs. Désolé pour Nagui, qui on a pu l'entendre à découvrir ce que c'était qu'un film bien réfléchi, bien construit. Ah, pauvre Choupinou Ramsès, il était tout perdu. Désolé pour Madame Guy, qui nous a appelé à la pause pour nous annoncer qu'elle débutait sa grève du sexe. Je crains que ça ne serve à rien, Madame. Le petit Nagui Moubarak Junior nous a confirmé qu'il en avait rien à foutre des syndicats et des revendications. Bon courage quand même.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Dans la bande originale de votre été, voici Vianney, moi aimer toi.
Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole. Quand on se bat, moi, je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi, blessez-moi. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte. Que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi, blessez-moi. Comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page.
C'était Vianney, moi aimais-toi, la bande originale de votre été, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain avec toute la bande.